Elle sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos réactions au coup KO de Fornia Simbé au Togo. Non seulement le président sortant a été réélu dès le premier tour pour un quatrième mandat, mais selon les résultats provisoires de la commission électorale, Fornia Simbé a obtenu un score sans précédent. 72% des voix, soit 14 points de plus qu'il y a 5 ans. Alors que vous inspire cette victoire sans appel? En tout cas, l'opposition, vous le savez, on vous en parle depuis maintenant un peu plus de 24 heures, l'opposition conteste les résultats, elle dénonce des bourrages d'urnes. Agbeyome Kodjo, qui est arrivé deuxième, appelle lui ses partisans à se mobiliser pour défendre sa victoire. Alors se dirige-t-on vers une crise post-électorale? Vous continuez évidemment à nous contacter ici à Paris au 33 9 693 693 70. Je vous attends également sur nos réseaux sociaux, j'ai un regard permanent sur la page Facebook de l'émission, je lirai évidemment quelques-unes de vos analyses pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer justement par les résultats de cette élection présidentielle. Des questions surtout sur le score de l'opposition. Bonjour Abdelaziz.
Bonjour Monsieur Juan.
Merci de nous appeler de Kinshasa. On vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, bon, comme je voulais commencer... Mmh. Au Togo, la CENI a annoncé dans la nuit du dimanche à lundi la victoire de M. Fornia Simbé. Et l'ancien Premier ministre devenu opposant, Agbeyome Kodjo, a récolté 18%. Mais comment M. Agbeyome Kodjo soit arrivé deuxième devant le parti historique de l'opposition?
Ouais, vous avez raison de vous poser cette élection, cette question. C'est vrai que Jean-Pierre Fabre n'est plus le leader de l'opposition, si on en croit les résultats provisoires de la CENI. Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI. Rappelons les résultats obtenus par Jean-Pierre Fabre. 4,35%, ce sont les résultats provisoires, mais 4,35%. Il est donc troisième et on a du mal à comprendre comment est-il passé de 35% des voix il y a 5 ans à 4% cette année.
Bonjour Abdelaziz également, bonjour à tous. Alors on est ici dans l'analyse politique, Juan, c'est pas une science exacte, mais il y a quand même quelques facteurs effectivement qui pourraient bien expliquer une telle situation. Déjà l'homme, le candidat lui-même, Agbeyome Kodjo, est loin d'être un inconnu. Il se présente aujourd'hui dans l'opposition, mais c'était d'abord un cadre du RPT, l'ancien parti unique de l'époque du père de Fornia Simbé. Dans les années 90, il a donc été Agbeyome Kodjo ministre, député, président de l'Assemblée nationale, premier ministre du régime. C'est au début des années 2000 qu'il tombe en disgrâce. Il part en exil, revient au pays, passe en prison et c'est finalement ensuite qu'il se lance dans l'opposition. Il fonde son propre parti 2007-2008, Obut à l'époque, qui est devenu récemment le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement. Et on le voit donc, Agbeyome Kodjo finalement a une certaine aura, un certain savoir-faire politique.
Déjà. Et il avait déjà tenté sa chance lors de la présidentielle de 2010.
Oui, mais c'était vraiment sans succès. Il récoltait 0,9% selon les chiffres officiels.
Donc il avait récolté à l'époque moins d'1% des voix.
C'est ça, c'est ça. Mais ici, on comprend d'ailleurs en quoi et peut-être pourquoi c'est un revers aujourd'hui pour Jean-Pierre Fabre. En 2010, Jean-Pierre Fabre porte les couleurs de l'Union des Forces de Changement. L'UFC, c'était le principal parti d'opposition, le parti historique. Et Jean-Pierre Fabre arrive second avec 33,9% des voix, même s'il a contesté les résultats. En 2015, rebelote, vous l'avez dit, Juan. Jean-Pierre Fabre, en revanche, porte ici les couleurs de l'ANC, l'Alliance Nationale pour le Changement, le parti qu'il a fondé après la scission avec l'UFC, après une brouille avec Gilles Christ Olympieux notamment. Et là, il récolte plus de 35% des suffrages. Il conteste aussi les résultats, mais aujourd'hui, à en croire les chiffres de la CENI, oui, 4%. Et c'est peut-être un des éléments, la lassitude peut-être, la résignation des électeurs à l'égard de Jean-Pierre Fabre. Deux fois, il a revendiqué la victoire. Pour autant, il n'a jamais amené l'alternance.
Ouais. Et puis, il y a peut-être une autre explication qui peut inverser, expliquer en tout cas cette inversion des rôles, si je peux dire. Ce sont les divisions qui sont récurrentes au sein de l'opposition, incapables de s'entendre sur un candidat unique.
Ouais. On a vu récemment la C14, vous savez, la coalition des 14 partis d'opposition qui avait boycotté les législatives en 2018, boycotté les municipales l'an passé. On a vu des manifestations massives, nombreux Togolais dans les rues. Mais finalement, cette coalition a explosé. Et beaucoup l'ont reproché, ça, à Jean-Pierre Fabre, de ne pas avoir su tirer parti, finalement, de cette vague de la C14, alors qu'avec Beyomé Kodjo, lui, ne figurait même pas dans cette coalition. Mais il se revendique, en tout cas, de cette union sacrée de l'opposition.
Et il a bénéficié de solides soutiens sur cette voie.
Oui, à commencer par l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Pozzro. Il a tenté de réunir l'opposition. Avec Beyomé Kodjo, c'est le candidat de cette dynamique Pozzro. D'ailleurs, on se souvient que l'archevêque émérite n'avait pas ménagé Jean-Pierre Fabre et certains opposants. En juin dernier, il disait que ceux qui ont quitté la C14, ce sont les Judas qui ont trompé le peuple.
Et pour répondre et être complet à la question d'Abdelaziz, on peut quand même revenir sur ces polémiques qui ont desservi l'opposant Jean-Pierre Fabre.
Ouais, on pense notamment à un audio ici, un audio qui avait massivement circulé sur les réseaux sociaux en septembre dernier. On y entendait Brigitte Adjamagbo-Johnson, aujourd'hui porte-parole d'Agbeyome Kodjo pour cette présidentielle. Elle accusait le chef de l'ANC d'avoir négocié des postes de maire avec le Premier ministre, c'est l'homme Klassoun. Jean-Pierre Fabre a démenti ici, mais on se souvient tout de même, Juan, que Brigitte Adjamagbo-Johnson était à la tête de la coalition CAP 2015 qui portait justement la candidature de Jean-Pierre Fabre pour la précédente présidentielle. Alors, de tels coups portés par d'anciens alliés, de telles rumeurs, fondées ou non d'ailleurs, ça peut naturellement laisser quelques traces en période électorale.
Abdelaziz, a-t-on répondu à votre question ?
Avec satisfaction, monsieur Juan.
Eh bien, on remercie Sébastien Duhamel du Service Afrique. Bonne journée à tous les deux et de la présidentielle au Togo et de ses résultats. Il en sera question, évidemment, dans 20 minutes avec vos réactions, vos commentaires et vos témoignages. Vous qui êtes sur place, 33 9 693 693 70. Nimir, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez. Bonjour à tous les deux.
Merci de nous écouter à Bouéa, dans la région du sud-ouest, au Cameroun. Vous avez des questions, vous, après la mort du chanteur rwandais Kizito Mihigo?
Oui, c'est cela.
On vous écoute.
Le chanteur de gospel rwandais, Kizito Mihigo, l'un des chanteurs les plus populaires du Rwanda, a été arrêté et retrouvé mort dans sa cellule. Mmh. Il se serait suicidé. Des ONG émettent des doutes sur la version des faits de la police et demande aux autorités rwandaises de faire une enquête indépendante. Alors, monsieur, j'aimerais savoir dans quelle mesure le gouvernement pourrait-il accepter la requête des ONG de mener une enquête indépendante.
Oui, d'autant que la mort de ce chanteur de gospel soulève de nombreuses interrogations. En tout cas, plus d'un millier de personnes ont assisté samedi aux obsèques de Kizito Mihigo. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Alors, Nimir le rappelait à l'instant, les autorités rwandaises assurent que Kizito Mihigo s'est suicidé dans sa cellule, il était seul, il a utilisé un drap pour se pendre, voilà la version officielle. Et notre auditeur rappelle à juste titre qu'il était détenu au poste de Ramena à Kigali, il avait été arrêté 4 jours plus tôt, on n'a toujours pas les résultats de l'autopsie, et les ONG, plusieurs organisations, demandent une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ce décès. Quelles sont les chances pour ces ONG d'être entendues?
C'est vrai que a priori, il n'y aura pas de chance d'avoir une enquête indépendante. Enfin, en tout cas, le gouvernement rwandais est complètement fixé sur l'idée, enfin, a promis une enquête, comme vous le disiez, a promis un rapport d'autopsie. Donc, on sait que le corps a été rendu à la famille samedi matin. Donc, c'est vrai que normalement, on attend les résultats de cette enquête-là. Les ONG disent ça parce que c'est justement pour pousser, pour aller plus loin et mettre en avant le fait que ça soit pas, c'est pas forcément le gouvernement rwandais qui est le mieux placé pour enquêter sur quelque chose dont il est accusé, puisqu'il y a, vous l'avez entendu, l'opposition de l'intérieur, la société civile à l'extérieur qui ont, elles aussi, parlé d'une demande d'enquête indépendante parce que justement, ils pensent que le gouvernement rwandais pourrait être derrière. Donc c'est vrai que c'est toujours un problème assez compliqué quoi, d'obtenir ce genre de choses. On a vu d'ailleurs que les diplomates, et notamment les Britanniques et les Américains, demandent, eux, à ce qu'il y ait une enquête complète du gouvernement. Donc ils essaient de pousser le gouvernement à véritablement enquêter, et disent, notamment pour les Américains, que c'est assez étrange de donner les conclusions avant même d'avoir commencé une enquête. Ce à quoi le gouvernement rwandais répond que quand il y a un suicide en prison aux États-Unis, il n'y a pas forcément besoin d'enquête.
Nimir, vous avez une autre question à poser à Sonia Rollet. Nimir,
quel était l'élément qui laissait penser aux autorités rwandaises qui voulaient rejoindre un groupe armé au Burundi?
Ah, il faut rappeler Sonia Rolet que Kizito Mihigo avait été donc arrêté 4 jours avant sa mort. Le pouvoir l'accusait de vouloir traverser illégalement la frontière burundaise pour rejoindre un groupe armé, c'est bien cela ?
Oui, c'est ce qui a été dit dans un premier temps. C'est vrai que ce qu'on sait, c'est qu'il s'était déplacé à proximité de la frontière avec le Burundi. Là, ses proches ne sont pas tous d'accord, puisque beaucoup disent qu'en fait, il ne comptait pas du tout passer la frontière. Kizito Mihigo lui-même disait qu'il se sentait en prison au Rwanda et pensait depuis pratiquement sa libération à partir du pays. Malheureusement, il n'avait pas de papier d'identité ou de passeport. Et d'ailleurs, dans les instructions qui avaient été données dans le cadre de sa libération, il pouvait se déplacer sur le territoire, mais il ne pouvait pas en sortir. Il y avait aussi un contrôle judiciaire et autres. Donc voilà. Mais Kizito Mihigo lui-même disait qu'il voulait partir, qu'il se sentait ni en sécurité, ni libre dans son pays. Donc c'est vrai qu'on pourrait croire effectivement qu'il aurait tenté de fuir, ou en tout cas les confidents auxquels il aurait dit ça. Le problème, c'est est-ce qu'il y allait pour rejoindre un groupe armé ou pas ? Ça, c'est ce que dit le gouvernement. Ses proches disent que de toute façon, c'est un militant de la réconciliation et qu'il a consacré toute sa vie à la réconciliation, et c'est pas pour se rejoindre un groupe armé à ce stade de sa carrière, alors que son message n'est qu'autour de l'amour et de la paix. Ça, c'est un différent qui, depuis le départ, existe entre le gouvernement rwandais et ce que disent à la fois les organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi les proches du chanteur et le chanteur lui-même. C'est vrai que le gouvernement l'a toujours accusé de vouloir commettre des actes violents, alors que lui a toujours dit qu'il était complètement pétri des idéaux de non-violence, et que sa manière, ou en tout cas son message politique, était plutôt un message d'amour. Oui. Et ça, c'est ce qu'il répétait à longueur de chansons.
Oui, c'est vrai qu'il avait fait de la réconciliation sa vocation. Merci beaucoup, Sonia Rolet, d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Nimir, qui nous appelait donc de Bouéa, au Cameroun. D'autres questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans les différents journaux. Delvi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous et un grand bonjour à votre formidable équipe au standard.
Merci de vos encouragements. Vous avez entendu sur RFI cet accord conclu il y a quelques jours entre les États-Unis et les talibans. Et vous avez donc quelques questions ce matin.
Talibans et Américains ont signé un accord sur la réduction des violences en Afghanistan pendant une semaine. Pourquoi ne parle-t-on pas d'un cessez-le-feu ? Ah. Et cet accord marque-t-il le début des retraits des troupes étrangères en Afghanistan, comme l'exigent les talibans?
Ouais, c'est vrai qu'une trêve de 7 jours a débuté samedi à minuit sur tout le territoire afghan. Bonjour Sonia Ghezali.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondante régionale de RFI en direct d'Islamabad au Pakistan. Si cette trêve d'une semaine est respectée, les talibans et les Américains pourraient bien signer dans quelques jours un accord de paix. Les mots ont leur importance et je comprends la question de notre auditeur, sa première question. On parle de trêve partielle, mais à aucun moment on parle de cessez-le-feu. Pourquoi ?
Oui, en effet, hein. C'est une réduction des violences qui a été conclue. C'est là-dessus que les Américains et les talibans se sont mis d'accord. Et c'est pour cela qu'on parle de trêve partielle. Le principe est bien celui d'une pause dans les combats sur tout le territoire, ou plutôt d'une diminution des combats. Concrètement, le président Ashraf Ghani a expliqué que les opérations des forces de sécurité afghanes vont se poursuivre contre le groupe État islamique, Al-Qaïda et les autres groupes terroristes. La trêve ne concerne que les talibans et de leur côté, les insurgés ne parlent pas d'un arrêt des combats. Un commandant local taliban a expliqué par exemple à l'agence France Presse que la trêve partielle ne s'appliquerait qu'aux villes et aux principales routes et que les violences vont se poursuivre certainement dans les districts en zone rurale. Dans les faits, depuis l'entrée en vigueur de la trêve partielle samedi à minuit, il y a eu d'ailleurs quelques incidents rapportés dans le pays. Au moins 3 hier, dont la mort d'au moins 4 membres d'une milice locale pro-gouvernementale et de 2 civils dans la province de Balkh, dans le nord du pays. L'enlèvement aussi qui a été signalé du gouverneur d'un district de la province de Semangan.
En fait, ce qu'il faut expliquer aux auditeurs Sonia Ghezali, c'est que cette trêve a valeur de test.
Oui, les Américains veulent voir en fait si les talibans sont de bonne volonté en réduisant les violences sur le terrain. Mais la guerre, elle continue puisqu'un accord de paix n'a pas encore été signé. Samedi 29 février, Américains et talibans devraient signer un accord sur un retrait graduel des troupes américaines. En échange, les talibans devront donner des garanties sécuritaires et s'engager à entamer un dialogue avec les Afghans cette fois-ci. Mais cette signature dépendra du comportement des talibans lors de cette semaine de trêve partielle.
Alors en ce moment, il y a près de 17 000 soldats étrangers déployés sous la bannière de l'OTAN, dont 13 000 américains. Delvy s'interrogeait justement sur le départ des troupes étrangères. Est-ce que cette trêve partielle peut aboutir justement au retrait de tous ces soldats ?
Oui, en effet, c'est tout l'enjeu de cette réduction des violences qui est finalement un premier pas concret après des mois de pourparlers entre talibans et américains à Doha au Qatar. Ce qu'ils négocient depuis le départ, c'est un départ des troupes étrangères contre la garantie que l'Afghanistan ne serve pas de refuge à des groupes terroristes qui souhaiteraient s'attaquer aux pays étrangers. Les talibans s'y sont engagés. Avec quelles garanties ? Eh bien, on l'ignore. On en saura peut-être plus après la signature samedi, s'il y a signature de cet accord avec les Américains. Ces derniers, d'ailleurs, qui mènent les négociations sans la présence des autorités afghanes ou d'autres membres de la communauté internationale, a aussi imposé comme autre engagement des talibans des négociations intra-afghanes. Les talibans ont dit oui, mais attention, encore une fois, aucun détail. Les talibans refusent de parler au gouvernement afghan parce qu'ils considèrent que celui-ci est une marionnette des États-Unis. Mais ils ont dit qu'ils étaient prêts à parler aux partis politiques.
Ah oui. Surtout qu'effectivement, depuis le début, ils ne reconnaissent pas les autorités de Kaboul, considérées comme des marionnettes des États-Unis. Merci beaucoup, Sonia Ghezali, d'avoir été avec nous ce matin. Delvy, bonne journée. À Pointe-Noire, il nous reste 3 bonnes minutes, le temps d'accueillir Bruce. Bonjour.
Bonjour.
Bruce.
Bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez des questions sur l'ancien président bolivien, Evo Morales?
Justement, en Bolivie, la candidature au Sénat de l'ex-président Evo Morales a été invalidée par le tribunal suprême électoral, car il ne remplit pas le critère de résidence permanente depuis qu'il s'est exilé en Argentine. J'ai deux questions.
Oui.
A-t-il la possibilité de faire appel de cette décision ? Quel avenir pour Evo Morales en politique, alors qu'il est aussi poursuivi pour le terrorisme?
Effectivement, il est poursuivi pour sédition et terrorisme. Christine Delfour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à Paris-Est, Marne-la-Vallée, spécialiste de la Bolivie. On a 2 minutes 30 pour essayer d'expliquer à notre auditeur la situation dans laquelle se trouve l'ancien président bolivien.
Allô.
Oui, vous m'entendez?
Allô.
Vous m'entendez, Christine Delfour? Ou pas? Visiblement non, on est en direct. Est-ce que vous m'entendez, Christine Delfour?
Maintenant, je vous entends.
Maintenant,
quelques secondes.
Alors, moi, j'ai du mal à vous entendre. Vous êtes certainement avec un téléphone portable en train de vous déplacer. On va essayer de régler ça en rantaine. Bruce, ne vous inquiétez pas. Hein, on essaye de régler tout cela. Et si on n'a pas le temps de vous répondre aujourd'hui, ce n'est que partie remise. On vous rappellera évidemment demain ou après-demain en fonction de l'agenda de Christine Delfour. J'ai 2 minutes devant vous pour vous rappeler notre débat du jour, consacré évidemment au coup KO de Faure Gnassingbé au Togo. Le président sortant réélu dès le premier tour pour un 4e mandat, avec ce score, score pour le moins surprenant, 72% des voix. Jamais Faure Gnassingbé, depuis qu'il est au pouvoir, n'a obtenu un score aussi élevé. Il n'a jamais obtenu autant de suffrages. Comment expliquer cette victoire sans appel? On a envie de vous entendre. Parmi vos explications, peut-être vous retrouvez-vous dans celles fournies par l'opposition qui conteste les résultats, qui dénonce des bourrages d'urnes, des résultats inversés, avec Bayomé Kodjo, qui est arrivé deuxième, loin derrière. Faure Gnassingbé appelle ses partisans à se mobiliser pour défendre sa victoire. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une crise post-électorale? Vous continuez à nous appeler au 33 9 693 693 70. Vos réactions nous arrivent par dizaines. Il y a David, par exemple, qui dit que de toutes les façons, Akbeyome Kodjo n'a jamais fait l'unanimité au sein de l'opposition. Et vu son passé, il n'est pas étonnant qu'il ne soit pas élu. Je rappelle que le passé d'Akbeyome Kodjo est connu de tous les Togolais. Il a été notamment Premier ministre du père Gnassingbé lors de la présidentielle de 2010. Sébastien Duhamel nous le rappelait tout à l'heure, il avait fait moins de 1% des voix. On en parle évidemment en direct, ce sera dans 10 minutes sur RFI.